Ce qu'il faudrait, c'est peut-être... Enfin, je veux dire, je ne sais pas si cela vous paraîtra pertinent, peut-être au point où nous sommes soufflés, prendre du recul, venir voir, c'est important. Savoir lâcher prise, de ne pas chercher à forcer les choses, c'est... Bien entendu, ce peut que je veux dire, je ne sais pas si comme je le sais, je crois savoir que... Vous souhaiterez y aller, en mettre un grand coup, de savoir prendre prise, de chercher à forcer les choses, voilà, c'est... Bien entendu, il se peut que je veux dire, je ne sais pas. Je sais, je crois savoir, parmi vous, et pour souffler un peu, plus clair, je sais qu'il y a là un choix à faire, une option à prendre. Nous sommes au mardi 22, nous piétinons, jeudi prochain et férié, nombreux sont qui ne pourront pas faire le pont, nous bientôt rendus au 28, au lundi 28, avec tout ce que cela suppose de désorgue. Retard, la question devient celle-ci. Est-il raisonnable, envisageable de décider précisément aujourd'hui, veille de ce pont d'en mettre un coup? On remarque que le calendrier nous invite à lâcher, à nous prendre le large. Ce qu'il faudrait, c'est donc peut-être. Je vais me. J'espère. Vous. Paraîtra. Point où nous en sommes, souffler un peu, nous laisser porter, bon, hasard du cas, laisser venir, mettre en roue libre, décompresser. Voilà, c'est bien entendu, il est clair qu'alors le 28, lundi 28 devrait dire de forcer le destin d'y aller. Sachant qu'alors pourrait s'ouvrir une pleine semaine de travail acharné, il me semble que nous pourrions nous mettre d'accord sur cette double proposition. Commence. C'est venir, et puis on y va à fond. Bien entendu, une proposition doit être discutée. Je propose 5 à 10 minutes de pause et on en parle.
Voilà la bande à Marie-Hélène Fournier sur un album qui s'appelle Solo. C'est ce qu'on appelle une impro verbale. En plus, c'est vrai, complètement de l'impro. Tout ça pour vous dire qu'on est avec Jean-Charles Masséra, un homme politique d'un jour, de deux jours, puisque ce soir au théâtre du Parvis Saint-Jean à 19h30, et puis demain. Également une petite intro avec des mots, beaucoup de mots, simplement pour commencer par cette question toute simple, toute bête, le pouvoir des mots, est-ce qu'on peut y croire encore?
Ouais, je pense qu'on peut y croire pour. Enfin, c'est pas, je crois que la question, c'est pas savoir si on peut y croire ou pas, c'est une espèce de. Toujours une masse comme ça, de métriques médiatiques. Dont on est imprégné, dont on s'imprègne tous les jours, qui passe par la radio, mais également par la télévision, où il me semble qu'il passe plus de mots ou d'images.
Ouais.
Donc, il y a toujours une espèce comme ça de rythmique obsessionnelle, récurrente, informative, soi-disant, qui passe à travers les corps et les consciences. Donc, c'est même pas, je crois même pas si on peut y croire encore, mais en tout cas, c'est... J'ai envie de dire, les mots, c'est encore ce qui formate l'imaginaire collectif. Quoi.
En même temps, les mots embrassent la réalité, ils l'enferment, et quelque part, ça réduit la réalité, puisqu'un mot, c'est une définition. La réalité, par définition, est presque indéfinie.
Ouais, mais ce qui est intéressant, dans le... si on parle des médias, c'est que finalement, enfin, il me semble que le mode d'énonciation, la manière dont on imprime une certaine tonalité à un énoncé a plus de poids et de sens que le contenu même des mots. Je sais pas, je prends toujours cet exemple de la manière dont on a rendu compte dans les premiers jours de la guerre du Golfe en 90. Et il était pas rare d'entendre des énoncés du genre selon le Pentagone, une fois et demi le tonnage de bombes lancées sur Hiroshima aurait été lancé cette nuit sur Bagdad. Ouais. Deuxième partie de l'énoncé, selon le Pentagone, 23 civils auraient trouvé la mort. Et ça passait très bien sans aucune critique du contenu qui était par évidence, enfin toute évidence, totalement absurde et scandaleux. Et
là, on voyait un ça animal. Veut dire aussi que les mots véhiculés par les médias n'ont peut-être plus leur vrai sens.
Oui, ce qu'on entendait, c'était finalement l'instance d'autorité selon le Pentagone, et puis c'était un peu la rythmique à la France Info qui fait que, enfin pour la France, c'est l'équivalent ailleurs, et qui fait que on n'entend plus l'information, on entend quelque chose qu'on est habitué d'entendre, et les contenus sont interchangeables, et personne ne réagit. Je veux dire, on a bien vu la manière dont la culture des médias s'est développée dans les années 90 en opposition à celle qui avait été finalement assez du côté du pouvoir, enfin du contre-pouvoir ou de la critique lors de la guerre du Vietnam. Je veux dire, l'information sur la guerre du Vietnam faisait descendre des gens dans la rue, celle relatant la guerre du Golfe faisait descendre simplement quelques acharnés qui se comptaient sur les doigts d'une main. Donc à partir de là, je pense que c'est plus la forme qui nous traverse que le contenu. Enfin, le contenu fait forme, quoi. Le but étant de nous faire dire au pouvoir en place.
Ouais.
C'est tout.
En même temps, information, ça veut dire mettre en forme. Hein. Ça vient du latin. On est d'accord que c'est la forme qui prime. Puisque, par exemple, la guerre du Golfe, c'est devenu plus un feuilleton qu'on suivait, un petit peu comme le Loft. Bizarrement, je fais le rapprochement. Plutôt qu'un véritable sens qui serait caché derrière et qui marquerait les gens. Mais le plus remarquable, quand même, c'est les hommes politiques qui ont des conseillers en communication. Peu importe le discours, ce qui compte, c'est quand même la mise en forme. Mais est-ce que ce n'est pas paradoxal pour un homme politique qui se veut proche des gens de faire le plus de boulot possible pour marquer plus les gens? Et on s'aperçoit, à l'image de Juppé, par exemple, qui ne sait pas combien coûte une BD.
Il faut voir aussi dans quel but sont écrits les discours d'hommes politiques. Les discours d'hommes politiques, déjà en préambule, on peut dire, enfin, me semble-t-il, que la politique en général agit de moins en moins sur le
cerveau.
Non, pas sur le cerveau, mais sur la marge du monde, des sociétés. Donc, elle a de plus en plus une part congrue, une portion congrue, qui se réduit à une poche à grain. Et donc elle agit encore tant bien que mal sur le domaine du social, il s'agit pour elle de penser les plaies ou d'agir là où elle peut encore agir, c'est-à-dire dans ce que lui laisse l'économie et la finance, qui sont tout simplement les deux instances qui mènent la marche de l'histoire contemporaine. Et à partir de là, déjà ils ont plus grand chose à faire, à dire et à travailler. Et ça se ressent dans les discours politiques qui sont assez... c'est même plus consensuel, mais c'est une espèce de... C'est une parole qu'on n'entend plus, qui est un tissu souvent de pas forcément si des lieux communs, mais surtout des choses qui sont presque là pour justifier encore d'une fonction qui est celle du politique. Ça, c'est intéressant pour les besoins du travail que j'ai essayé de produire pour I Love Dijon. J'ai téléchargé énormément de discours, allant des discours de maires de communes moyennes jusqu'aux discours disponibles sur le site gouvernemental, qui recense la plupart des discours officiels et majeurs de tous les ministres et les secrétaires d'État depuis une dizaine d'années en région.
Vous avez
écouté tout ça ? Ils sont écrits. Donc j'ai essayé de télécharger, j'ai pas téléchargé le son, j'ai téléchargé le texte. Et non seulement ils sont tous écrits sur le même format, avec des fois quelques points de stylistique qui changent en fonction des orateurs, mais... C'est effectivement assez drôle de voir qu'ils suivent tous le même mouvement, la même construction, le même type d'énoncé, les mêmes conclusions. De toute façon, ils sont tous véritablement...
Vous êtes un héros d'avoir lu tout ça, alors?
Non, parce que je suis habitué à lire beaucoup de conneries pour mon boulot. Je travaille toujours sur une matière première qui est... en l'occurrence, c'était des discours politiques, mais... faudrait peut-être dire de quoi il s'agit un peu plus tard, mais dans d'autres cas, pour d'autres travaux, Ça peut être des textes de loi, ça peut être des résolutions de l'ONU, ça peut être des codes, des règlements, toute une matière première de littérature qui réglemente, organise et régit un petit peu nos sociétés, et qui sont une matière première que je triture de l'intérieur, en faisant presque de l'entrisme au sens trotskiste du terme, quoi. C'est-à-dire on rentre dans un truc et on essaie de parler la langue et dans la langue de l'ennemi pour... Ouais. Non, pas pour mieux le faire sauter, ce serait un petit peu.
Il y a un petit côté Debord aussi, non ? Est-ce qu'on peut parler de Debord avec ce, c'est carrément du détournement.
Oui, il y a du détournement, mais. Debord, je ne sais pas, mais par rapport au situ, il y a du détournement, mais avec une. Orienté vers la réécriture d'un autre contenu et qui est un contenu qui est lisible, qui n'est pas qui est facétieux, mais qui n'est pas un brouillage rendant compte d'une manière absurde du monde.
Ouais, c'est ce qu'on pourrait reprocher aux situationnistes, évidemment, de pointer les travers et défauts de notre société, ça on est d'accord, mais peut-être de ne pas apporter une solution, ou en tout cas un petit peu de rêve. Vous dites, on va parler de quoi il s'agit quand même, puisque c'est un discours de politique générale. Déjà, il y a un pléonasme politique et général, qui me semble évident. C'est ce soir au Parvis Saint-Jean. Vous défendez vos élus.
Et demain
également. Vous insistez surtout sur le fait de renforcer l'imaginaire communal de tous. C'est quasiment une dimension qu'on ne voit jamais dans les discours politiques. Donc vous êtes un politique poète, rêveur. Ou humaniste ?
Non, critique. Parce que quand je parle d'imaginaire communal, c'est à prendre presque au sens, non pas péjoratif, mais au sens le plus bas du mot. C'est-à-dire, c'est quand justement notre horizon se limite... à se positionner par rapport aux mômes qui traînent avec des mobs jusqu'à 1h du matin dans le lotissement.
Ouais.
Ou quand la galette des rois des anciens fait rêve, justement. Je caricature, je tire les traits, mais c'est vrai que cet imaginaire-là, c'est pas un imaginaire qui fait rêver, mais en tout cas, c'est un imaginaire qui habite nos consciences collectives. Et le discours commence de manière assez détournée, pour le coup, symbolique, sur la question d'un autre imaginaire qui est l'imaginaire pavillonnaire.
Ouais.
Et j'ai créé un discours pour un hypothétique homme politique. C'était un élu qui devait lire, enfin, c'est ce qui était rêvé au départ. Ce ne sera pas le cas, ce sera quelqu'un d'autre qui le lira, mais j'ai écrit ce texte pour être lu par un homme politique, comme on écrit des textes pour un homme politique. Donc les déplacements littéraires sont présents, mais le fait d'écrire pour une autre personne est très important. Je ne peux pas lire ce texte. C'est un texte qui est beaucoup moins travaillé que mes textes de fiction ou d'autres textes que j'ai écrits pour la scène. Mais toujours est-il, pour en revenir au propos... Ça débute sur un discours qui s'adresse aux administrés d'une commune qui voit 16 maisons Catherine Mamet exploser. Comme on invite la population d'un quartier dit défavorisé d'une barre HLM à assister à la démolition de sa tour. Et donc il y a une tradition républicaine qui consiste à faire déplacer le ministre de la ville devant la tour qui va péter.
Pour voir sur le terrain.
Et donc on pleure sur la tour qui pète et sur la mémoire des habitants, mais on prépare l'avenir. Et là j'ai imaginé faire sauter 16 maisons Catherine Mamet. Mmh. C'est une espèce de rêve des classes moyennes. Et donc c'est cet imaginaire-là que j'essaie de traiter. Et c'est pas le rêve ou le poétique au sens où on pourrait s'en échapper.
Ouais.
C'est un disque. De toute façon, je pense pas. Enfin, mon approche de l'art en général, de l'esthétique ou de la littérature en ce qui concerne ma pratique, ma pratique critique, parce que je suis aussi un peu essayiste sur l'art contemporain et le cinéma, vise toujours à travailler des questions qui n'ont finalement que peu à voir avec le rêve, le poétique ou je ne sais quoi, mais plutôt avec une dramatisation de l'existant et du donné et une espèce de distorsion visant une distanciation par rapport à cet horizon donné.
Quoi. Ouais. En même temps, qui dit distance par rapport au monde dans lequel on vit, quelque part donne plus de participation car moins de passivité, non ? Plus de relativité, et en même temps, cette distance donne du relief.
Oui, tout à fait.
Mais on est plate et quotidienne que tous les jours on vit.
Oui, ça, c'est pas quelque chose qui nous apprend. Enfin, moi, j'ai pas la prétention d'écrire, de produire des choses qui nous apprennent quelque chose sur le monde. Mmh. Mais il y a effectivement cette volonté. J'écris souvent, dans discours, c'est un petit peu différent, mais dans les textes de fiction, sur le mode du vouvoiement et de l'adresse au lecteur, comme on peut le faire dans un guide touristique ou un texte de loi. Et il y a cette volonté de tout de suite faire entrer le lecteur dans une dimension participative, non pas au sens où le lecteur pourrait s'identifier à un personnage. Il n'y a pas de personnage. Enfin, bon, ça, c'est une conception de la littérature qui date d'un peu plus d'un siècle. Mmh. Mais tout simplement, il y a ce vouvoiement qui s'adresse aux citoyens comme on s'adresse à un vous lecteur, comme on s'adresse à un usager. C'est-à-dire la condition contemporaine, semble-t-il, en société... Les pays les plus avancés sur le plan technologique, c'est la condition de l'usager, c'est-à-dire on vous apprend à être usager finalement de tout, des objets, de l'administratif, de l'économique, du sexe, des sentiments, etc. Donc à partir de là, qui dit usager dit notice, mode d'emploi, réglementation, loi et...
Mais c'est un faux rapport de proximité.
Oui, bien sûr, mais c'est-à-dire que... Si on veut travailler, moi j'ai pris le parti de travailler une dimension critique dans cette langue de l'adresse à l'usager, et dans cette langue de la codification et du formatage et de l'aliénation. Et j'écris toujours dans la langue de l'ennemi, ça c'est clair. Je ne crois pas à Robinson, je ne crois pas à l'île déserte, je ne crois pas qu'on peut reconstruire l'industrie lourde avec une boîte d'allumettes sur une île déserte. Moi, je pense plutôt qu'on ne peut travailler que... qu'en scoltant la langue de l'ennemi. Et ce qui donne forme, ce qui donne style, si forme et style il y a, pour parler au sens littéraire, c'est l'objet qu'on traite, dont on parle, qui la motive. C'est-à-dire que si par exemple dans mes écrits il y a de la récurrence, il y a de la mise en boucle, il y a de la répétition, c'est pas parce que je suis fasciné par la littérature de Gertrude Stein, même si c'est un peu le cas. C'est parce que, et je ne m'inscris pas dans une filiation littéraire qui est celle de la ritournelle obsessionnelle, mais c'est parce que nos modes et nos structurations de pensée sont construits comme tels. Discours politiques sont construits comme tels. Vous lisez le Code civil, c'est une répétition d'une structure absolument, véritablement répétitive, qui fonctionne par ajout d'informations et par spécification progressive des cas, et qui fait qu'on finit par se représenter le monde et être à ce monde et en faire usage. De la même manière, c'est-à-dire quelle que soit finalement la situation à laquelle on est confronté dans certains cas de figure, on va réagir exactement de la même manière que 10 minutes ou 10 jours plus tôt dans un autre cas de figure, parce qu'on a été habitué à penser comme ça, plus par rapport à un système de structuration de pensée qu'à l'objet spécifique auquel on a affaire. Donc, c'est le monde qui est comme ça, c'est le monde qui donne cette forme. C'est pas moi qui imprime une forme au monde. Enfin, je ne crois pas non plus au style et à l'impression poétique d'un auteur. Bon, je suis peut-être un mauvais écrivain, mais en tout cas, je ne crois pas à ça. Pour moi, c'est très naïf. Enfin, j'y croyais, c'est à l'époque où j'écrivais des trucs que je n'osais pas envoyer aux éditeurs. Heureusement, je les mettais à la poubelle.
Une dernière petite question avant de retrouver un homme sur le terrain inaliénable, pas encore édité, tant mieux peut-être pour lui, qui allait sur le terrain prendre la parole de l'ennemi, c'est Olivier, reportage, souvenez-vous, c'était lors des municipales, le jour où tout a changé à Dijon, puisque je le rappelle pour ceux qui n'ont pas remarqué la différence, on est quand même passé de droite à gauche, donc reportage dans quelques instants. Dernière question, pourquoi ne pas avoir pris en charge le texte vous-même? Pourquoi ne pas le lire?
Pour une raison très simple, comme je disais tout à l'heure, le déplacement fait partie intégrante du texte, en ce sens que si je lis ce texte, je me mets dans la position d'un acteur. Et quand je lis des textes qui sont les miens, je le fais souvent dans le cadre de lecture, bon, etc. Mais je lis quelque chose qui est extrêmement travaillé, qui est beaucoup plus travaillé que ce qui va être lu ce soir et demain. Et où à ce moment-là, j'endosse totalement le texte. Ici, je n'ai fait qu'endosser le rôle d'une personne qui écrit un texte légèrement modifié, légèrement détourné, de manière assez drôle et critique, dans la langue d'un politicien qui ferait un discours de politique générale.
Ouais. Vous êtes un nègre.
Tout à fait. Je ne dois pas apparaître, évidemment c'est mon nom qu'il y a sur le programme, etc. Mais normalement je ne dois pas apparaître, c'est pour les besoins de la communication culturelle qu'on a fait ça, mais normalement je ne suis pas l'auteur de ce texte.
D'ailleurs on est désolé de vous avoir en invité parce que quelque part on détruit un petit peu la surprise de ce soir. Bon, il nous en reste une là tout de suite, c'est Olivier lors des municipales, souvenez-vous.
Who gives a shit? This ancient history. Why? What do you want? What is it? What? Speak to me. Speak.
Bonjour et bienvenue dans une chronique un petit peu spéciale aujourd'hui puisque elle est consacrée en raison de l'actualité brûlante entièrement au résultat du second tour des élections municipales à Dijon. Alors nous sommes bien évidemment en direct avec plusieurs de nos correspondants, notamment Myriam Lechu à l'hôtel de Vim. Myriam, est-ce que vous m'entendez? Non, on nous signale que Myriam n'est pas là. Eh bien, nous allons devoir nous consacrer uniquement à ces résultats sur la commune, la ville, dirais-je, de Dijon. Mais malheureusement, aucun résultat n'est encore disponible. Alors, il faut bien évidemment meubler le temps d'antenne pour que les gens restent un petit peu informés. Et nous allons donc vous proposer un programme spécial en attendant les résultats flamboyants de cette ville de Dijon, avec un nouveau jeu destiné à fidéliser l'auditeur qui s'intitule Le Poids, le jeu du poids. Eh bien, tout de suite, nous allons avoir un premier candidat.
Nous avons une jeune secrétaire au téléphone. Jeune secrétaire, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez participer avec plaisir au jeu qui s'appelle le Devinez le poids. Alors, première partie du jeu, je vais vous demander votre poids.
D'accord. C'est 60 kilos.
60 kilos, très bien. Et deuxième partie du jeu, la plus importante, mm-hmm. Essayez de deviner mon poids.
D'accord. Mais je vais dire 70 kilos.
70 kilos, très bien. Alors écoutez la suite de l'émission. Eh bien, si vous avez trouvé la bonne réponse ou une réponse qui s'approche le plus de mon poids réel, vous avez gagné un agenda pour l'année 2001 gratuit. Jeune secrétaire, je vous remercie.
Merci,
au revoir.
Au revoir.
Alors bien évidemment, ce jeu est absolument en direct. Vous excuserez les conditions techniques. Et tout de suite, un deuxième candidat que nous avons bien sûr pris au hasard dans l'annuaire.
Nous avons une jeune secrétaire au téléphone. Jeune secrétaire, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez participer avec plaisir au jeu qui s'appelle le Devinez le poids. Alors, première partie du jeu, je vais vous demander votre poids.
D'accord. C'est 60 kilos.
60 kilos, très bien. Et deuxième partie du jeu, la plus importante, mm-hmm. Essayez de deviner mon poids.
D'accord. Mais je vais dire 70 kilos.
70 kilos, très bien. Alors écoutez la suite de l'émission. Eh bien, si vous avez trouvé la bonne réponse ou une réponse qui s'approche le plus de mon poids réel, vous avez gagné un agenda pour l'année 2001 gratuit. Jeune secrétaire, je vous remercie.
Merci,
au revoir.
Au revoir.
Alors, bien évidemment, nous tentons toujours de joindre Myriam Lechu à l'hôtel de ville. Myriam, est-ce que vous me recevez? Ah, on me dit que Myriam Lechu ne pourra pas nous parler parce qu'elle a été victime d'un accident vasculaire. Bien écoutez, c'est pas grave, nous avons l'improvisation entre les mains puisque nous sommes des professionnels ici à Radio Campus Bourgogne. Et puisqu'il n'y a jamais de 203, comme le dit l'adage, tout de suite, un troisième concurrent pris au hasard dans l'annuaire.
Nous avons une jeune secrétaire au téléphone. Jeune secrétaire, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez participer avec plaisir au jeu qui s'appelle le Devinez le poids. Alors, première partie du jeu, je vais vous demander votre poids.
D'accord. C'est 60 kilos.
60 kilos, très bien. Et deuxième partie du jeu, la plus importante, mm-hmm. Essayez de deviner mon poids.
D'accord. Mais je vais dire 70 kilos.
70 kilos. Très bien. Alors, écoutez la suite de l'émission. Eh bien, si vous avez trouvé la bonne réponse ou une réponse qui s'approche le plus de mon poids réel, vous avez gagné un agenda pour l'année 2001 gratuit. Jeune secrétaire, je vous remercie.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Alors qu'on nous annonce avec tristesse le décès de Myriam Lechu à l'hôpital général, qui est morte pour vous informer, le temps qui nous est imparti s'achève et il est donc temps de donner le résultat de ce formidable jeu du poids, le jeu du poids qui vous fidélise, vous, nos amis auditeurs. Eh bien, à la surprise générale, c'est le candidat numéro 2 qui remporta l'agenda gratuit, puisque mon poids est effectivement depuis deux jours de 70 kilos. Au revoir.
Voilà, c'était Olivier, souvenir, un reportage lors des municipales. Nous sommes avec Jean-Charles Macéra, je le rappelle, pour son discours « Quelque chose en nous » de Général. Discours ce soir à 19h30 au Parvis Saint-Jean, demain à partir de midi. Quel est votre poids, Jean-Charles ?
Avant de donner mon poids, que je ne connais pas, c'est 19h ce soir.
19h ouais, ce soir, ouais. Oui.
19h30, ça devrait être fini. En fait. Mon poids, je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je l'ai pris à une époque où je faisais beaucoup de sport, ce qui n'est plus le cas depuis des années. Je n'ai vraiment aucune idée. Je pèse assez lourd, en fait.
On peut faire confiance aux politiques, à votre avis ? On a des indications, là, d'un événement qui est important, les municipales. Bon, important pour qui, ça dépend, question de relativité. Et puis, un jeu concours qui est opposé à ces résultats, un jeu concours de poids. Est-ce que la politique fait le poids face à notre réalité quotidienne ?
Tout dépend de la taille de la commune.
Ouais.
Plus la commune est petite, plus on peut faire confiance, je pense, à l'équipe en place, tout simplement parce que les problèmes qu'elle a gérés sont non seulement moins en ampleur, mais également nécessitent une masse monétaire beaucoup moins importante. Donc, on va dire qu'il y a moins de tentations extérieures.
Ouais.
Et plus la ville est grande, plus ça devient compliqué. Quoi.
Comment vous avez écrit le texte ? On l'a vu un petit peu en première partie. Qu'est-ce qui revient dans ce discours des politiques ? Quels sont les tics de langage, les tics, même les idées convenues qui reviennent le plus souvent ?
La proximité,
ouais.
La sécurité, les problèmes de voirie, l'importance des bénévoles et des personnes dévouées dans une commune. Qui sont la richesse des communes, l'embellissement et l'enfleurissement avec pour objectif d'obtenir 3 ou 4 fleurs au concours des villages fleuris, le gymnase et la salle polyvalente, c'est quand même deux éléments clés du ouais. Ciment municipal, les lotissements, l'achat d'une balayeuse.
Terrible.
Et puis les jeunes qui traînent jusqu'à 1h du matin dans les lotissements.
Ouais.
Ça revient souvent sous une forme beaucoup plus abstraite, qui s'appelle sécurité, environnement, impôts qui n'augmentent pas trop. Mais une commune, c'est ça. C'est des ronds-points. Ouais, comité des fêtes, très important le comité des fêtes, comme la commission des travaux. L'un étant plus critiqué que l'autre. Mais non, c'est vraiment une politique, un imaginaire de proximité qui se joue dans un discours municipal.
Ouais, vous avez l'impression de vouloir faire passer un message ce soir, ou c'est juste pour l'amusement, ou si on renverse la question, est-ce que vous pensez que, puisque vous êtes artiste, on ne va pas faire gaffe à ce que vous dites, puisque de toute façon, vous êtes artiste ?
Oui, il y a un peu de ça, d'ailleurs. D'ailleurs, ça se ressent dans les ventes de livres, puisque les essais marchent mieux ici, puis à l'étranger, puisqu'il y en a qui sont traduits, que la fiction, qui est certes plus, comme la langue est assez triturée, difficile à traduire, mais aussi, il y a toujours plus d'intérêt porté à la dimension essayiste d'un travail qu'à la dimension esthétique ou artiste. Non, c'est pas pris au sérieux, en revanche, sur la question du message, j'ai toujours l'idée qu'il y a, où je vais passer aucun message. C'est simplement une dramatisation. Ouais, bon, si je devais résumer mon travail, enfin celui que j'essaie de faire depuis 5-6 ans, parce que les choses changent évidemment, mais en ce moment, ce serait plutôt une dramatisation des processus d'aliénation à l'échelle locale, ce dont je parle aujourd'hui, mais aussi à l'échelle beaucoup plus vaste. Prochain roman qui sort bientôt, s'intitule United Emmerdement of New Order. Il faut entendre New Order au sens réganien du terme.
Oui, là, parce que le groupe en tant que tel, bon, c'est pas trop mal.
Non,
le dernier album est pas mal.
J'ai beaucoup plus de sympathie pour le groupe que pour le mauvais acteur, mais là, il y a une dimension internationale qui travaillait dans ce roman. Je parle de la négation de l'État palestinien, du processus d'instrumentalisation des cultures et des personnes dans le tourisme mondial, je parle de phénomènes de délocalisation et des effets d'assujettissement de la main d'œuvre dans les ex-pays du Pacte de Varsovie. Je parle du code de déontologie de la police nationale. Je réécris le code de déontologie de la police nationale à l'épreuve des expulsions de Saint-Bernard et de la politique des charters. Donc là, évidemment, il y a une dimension plus critique. Il n'y a pas de message à faire passer, mais il y a une dimension plus critique. Le point commun entre ce texte de fiction et puis le discours que j'ai écrit pour ce soir et demain, c'est l'aliénation, sauf que celle dont il est question ce soir est plus douce et porte moins conséquences que celle qui est en jeu sur le plan international. Donc la différence, elle est là, elle est de taille. Donc ce soir, c'est vrai que c'est plus un amusement, c'est plus léger, et puis c'est aussi simplement parce qu'on est dans les arts un peu de la scène, et que je me suis prêté au jeu du divertissement, et que les gens vont souvent d'une certaine manière au spectacle. Il y a encore cette idée d'aller au spectacle, et quand j'écris un roman, je sais que de toute façon, les gens ne vont pas au spectacle, ils achètent la machine pour autre chose. Et puis là, c'était aussi parce que, pour moi, de la même manière que j'ai fait du montage radiophonique sur France Inter il y a 4-5 ans, dans une émission qu'on a avec un ami totalement détournée, une émission d'été... en faisant un truc totalement expérimental qu'on n'aurait jamais pu passer sur projet. Bon, évidemment, on a été viré au bout de 3 mois. De la même manière que j'ai tenté, là, ça n'avait pas abouti pour des raisons.
Ça marche l'été, pas en temps plein.
Ouais, non, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'expérimental. J'ai essayé des choses aussi avec une chorégraphe au Canada. Là, ce soir, dans le cadre de I Love Dijon Nouvelle Scène. Pour moi aussi, ce sont des territoires d'exploration, d'expérimentation de choses que je ne peux pas mettre en forme dans un livre.
Ouais.
Et que j'essaye sur d'autres manières, parce que d'une certaine manière, un, je ne fétichise pas du tout la forme du livre, la forme de l'écrit. Deux, sont des questions que je peux traiter. S'il y a une question spécifique que je peux traiter dans le cadre d'un discours, je le fais, c'est le cas ce soir. Dans le cadre de la radio, je le ferai. Ou dans le cadre d'un film, en projet, je le ferai d'une autre manière. Je fétichise absolument pas une forme. L'important, c'est pour moi, c'est ce que ça met en forme et ce que ça peut travailler, ce que tel ou tel médium peut travailler. En l'occurrence, ce soir, c'était dans le cadre d'une municipalité, d'une ville, en région, un discours. J'ai travaillé cette dimension-là.
Ouais.
Si, quand j'avais travaillé avec Vincent Labeaume en 97 sur France Inter pour La vie qui va avec, on avait le dimanche après-midi de 16h à 17h des gens qui se tournaient les pouces sur la plage ou devant leur barbecue qui était en préparation. Et c'est là-dessus qu'on a frappé.
Ouais. Voilà. Vous dénoncez quand même, puisque vous dramatisez cette aliénation, les éléments de l'aliénation de tous les jours. Dramatiser, c'est aussi quelque part dénoncer, non ? C'est pas que j'ai envie de vous sauver, mais c'est vrai qu'on parle de divertissement. Moi, je l'entends un petit peu au sens pascalien. C'est vrai que beaucoup de gens vont au spectacle pour se divertir, c'est-à-dire pour se détourner de vraies questions et ne vont pas au spectacle pour essayer de, on va dire, s'améliorer un petit peu ou être bouleversé ou changer ou quoi que ce soit d'autre.
Si, mais je veux relativiser ça parce qu'il faut quand même... Il y a d'autres modes de dénonciation, je pense qu'il faut être réaliste, c'est-à-dire que attaque dénonce 10 fois plus que ce que je dénonce. Je pense que quand F. Capello et Luc Boltanski écrivent Le Nouvel Esprit du Capitalisme, ils dénoncent plus, mieux et de manière beaucoup plus fine ce que je fais moi, même si de temps en temps nos objets se croisent et nos dénonciations se rejoignent. Moi, il y a une dimension plus de... Quand je parle de dramatisation, c'est presque de nous mettre encore plus le nez dans la merde, littéralement, mais surtout dans la manière dont on nous met dans la merde. Ce que ne fait pas... La différence avec un texte, un essai ou un reportage ou un film documentaire extrêmement bien construit, c'est que je mets presque l'usager en position de conscientisation de ce qui est en train d'arriver. Mmh. C'est peut-être là que je peux travailler. Là, il y a une différence par rapport à un véritable discours critique. La différence, elle est là. Mais la dénonciation, le problème aussi, c'est que c'est quelque chose non pas qui est galvaudé, mais d'une certaine manière, à des échelons différents. La culture du spectacle télévisuel et radiophonique s'est emparée de ce mode de dénonciation.
Ouais.
Et je veux dire, le risque, c'est de ne pas être plus fort, ce qui serait dramatique, que Carl Zero ou les Guignols de l'info, ouais, qui sont d'une certaine manière pas terribles, mais pas si mauvais que ça. Je veux dire, il faut, juste pour clore sur cette idée, c'est... Il y a une dimension de l'art qui peut plus être efficace aujourd'hui, je veux dire, à partir du moment
où... L'art rebelle.
Ouais, l'art rebelle ou l'art dada, c'est-à-dire que l'art qui brouille, l'art qui dénonce, l'art surréaliste, l'art du dadaïsme, quand les dadaïstes et surréalistes ont produit ce qu'ils ont produit, ça pouvait pas se penser ailleurs, ça. Ah. Ça se pensait là, et on fermait la salle de cinéma dans les 5 minutes qui suivaient le début de la projection. Aujourd'hui, vous avez des financements pour dire merde à votre ennemi. Donc à partir du moment où on vous donne un camp pour vous rebeller, on vous dit, bon, allez-y, là, vous êtes libre, rebellez-vous. Évidemment, ça produit d'autres types de critiques. Et j'ai pas envie de me positionner sur quelque chose qui est déjà en place et qui a une caisse de résonance 10 fois plus importante que la mienne. Moi, quand je sors un texte de fiction, quand je vends 1500 exemplaires, c'est le rêve, et quand j'en vends 400, c'est normal. Et voilà, et on touchait plus de personnes quand on était sur France Inter que je le fais avec mes livres.
Forcément.
Donc, je sais bien, évidemment, qu'on travaille pas à la même dimension. Donc dans les livres, je me contente de la dimension... qui est celle que je viens de décrire, mais surtout je crois que l'artiste ou l'écrivain n'a plus rien à dire sur le monde. Peut-être là où il peut travailler, à partir du moment où il travaille de la forme et du langage, c'est d'essayer de comment dirais-je, pour le coup, de mettre en forme encore plus ce langage qui est utilisé dans l'aliénation, qui est le langage de la finance, qui est le langage du politique.
Pour devenir plus efficace.
Ouais.
Il y a Yves Pagès, donc écrivain, maintenant directeur d'édition chez Vertical. Il a sorti Petite nature morte au travail, dans ce bouquin, des fragments de la vie des gens au travail.
Que j'aime bien, d'ailleurs.
Qui est terrible, qui est mortel. En fait, il dit, on l'a chopé en interview, nous, il nous parle du rebelle. Et il nous dit, en fait, il n'y a plus de rebelles aujourd'hui, qu'on soit artiste ou un petit peu punk ou révolté, il n'y a plus de rebelles, puisqu'il y a deux solutions. Ou bien on est rebelle, on s'en sort, c'est-à-dire qu'on est digéré par le système, donc on n'est plus rebelle, ou bien on est vraiment rebelle et on crève. C'est un petit peu ça de nos jours. On ne peut plus se rebeller.
Ouais, je pense que... Puis surtout, on ne peut plus se rebeller parce qu'il y a déjà énormément de rébellions qui ont été mises en place, dites, énoncées et explorées. Puis pour en revenir à ce que dit Yves Pagès, aussi, il faut savoir qu'il a commencé à travailler dans un cadre universitaire sur Céline. Donc c'est vrai qu'il part d'un point de vue qui est le point de vue critique de Céline, et que c'est peut-être le modèle extrême et dernier d'une certaine critique, avec toutes les réserves qu'on peut émettre sur Céline. Mais c'est vrai que... Ouais, c'est dur de se la jouer rebelle aux éditions de Minuit ou chez POL, ou dans un théâtre national, quand on voit ce que la culture dite populaire a produit comme mise en forme critique ces dernières années.
Dernière petite question, puisqu'il va falloir s'y mettre, à la politique. Dernière petite question, vous avez été critique, enfin vous tâtez un petit peu de tout, du cinéma, de la littérature. Quel est votre avis ? Il y a Daniel Mermet qui dit « trop d'infos tue l'info », évidemment. On a l'impression que dans les arts contemporains, dans l'art toujours, dans l'art de tous les jours, on a l'impression qu'il y a trop de discours, trop de paroles. La question est la suivante, est-ce que trop de paroles tue l'œuvre d'art ?
Non, pas du tout, je pense que c'est toujours pareil, comme il y a trop de discours sur en sociologie, en psychologie, et puis il y en a toujours deux, trois bons. Il y a beaucoup de mauvais arts, mais c'est ce qui permet à l'art d'exister et de trouver du bon art, entre guillemets. Non, il n'y a pas trop de discours. Juste pour clore sur cette idée, c'est comme... Pour en finir aujourd'hui, c'est comme le discours qui consiste à dire qu'on est saturé d'images, qu'il y a un trop plein d'images, un trop plein d'informations. Non, il y a un trop plein d'images, un trop plein d'informations sur certaines choses, mais pas sur d'autres. il y a trop plein d'informations en ce moment sur la peur du bioterrorisme. Il n'y a jamais eu d'informations dignes de ce nom sur le processus lent de total effacement de la carte de la Palestine. C'est tout ce que j'ai à dire.
Merci. On a presque réussi notre pari. On n'a presque pas parlé de ce qui va se passer ce soir. Donc l'intérêt général est préservé. Ce soir, Jean-Charles Massera, 19h, au Parvis Saint-Jean. Il fallait qu'on termine punk, évidemment, avec cette émission 1974, The Fall, avec Mark Smith. Il chante toujours. Il est passé par une vague électro. Il a toujours braillé dans son micro. Il n'a jamais appris à chanter. C'est pour ça qu'on l'aime. The Fall, un hit qui s'appelle Los Angeles en 1986.